Benoît Béton, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes responsable du pôle gestion des milieux, des espèces et des ressources au sein du parc naturel régional du Vercors.
Tout à fait.
Et on se rencontre aujourd'hui dans le cadre de notre thématique sur les abeilles. On a déjà réalisé plusieurs interviews, notamment d'apiculteurs, et on aurait souhaité compléter le sujet avec le point de vue du parc. Pour le parc du Vercors, quel est le constat que vous avez pu faire par rapport à cette thématique? Parce que les abeilles sont un sujet dont on parle beaucoup en ce moment.
Les abeilles, c'est effectivement un sujet dont on parle beaucoup, notamment du côté des abeilles domestiques, puisqu'il y a de nombreux apiculteurs qui ont connu des pertes allant jusqu'à 100% leur rucher cet hiver, donc c'est un vrai problème. Ces pertes-là sont connues et se développent de plus en plus chaque année. Et puis, c'est aussi important pour nous, aussi quand on parle de l'ensemble des insectes pollinisateurs, donc c'est-à-dire les autres espèces d'abeilles sauvages, et puis toute la famille des bourdons et autres espèces pollinisatrices.
Alors justement, par rapport, là on va élargir, on va pas parler que des abeilles, mais c'est intéressant d'avoir une vue globale aussi des insectes sur le territoire, notamment les insectes pollinisateurs. Il y a une étude qui vient de sortir, là je l'ai sous les yeux, elle date de 2015. Qu'est-ce qui ressort vraiment par rapport à notre territoire de cette étude?
Donc effectivement, cette étude est un peu plus de manière globale, donc sur l'ensemble des insectes pollinisateurs, globale sur l'ensemble du territoire du parc, et met en avant un certain nombre de problèmes qui sont connus. Mais sur le territoire de parc, un des facteurs les plus importants, c'est bien la disponibilité de la ressource alimentaire, qui est un vrai problème sur beaucoup de territoires, certains plus que d'autres. Mais c'est un élément fort qui fait notamment que, qu'arrivé à une certaine période, la ressource alimentaire est suffisamment faible pour ne plus permettre le développement de certaines espèces pollinisatrices. Et ça se ressent aussi d'ailleurs auprès des apiculteurs professionnels qui disent notamment sur certains secteurs qu'à partir du 15 juin, les abeilles commencent à aller piocher dans leurs réserves et n'ont plus suffisamment de ressources alimentaires à disposition pour continuer enrichir le cadre de leur ruche.
Alors, est-ce que de cette étude, il y a des... On sait d'où ça vient, cette baisse des ressources alimentaires?
Disons qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement beaucoup, on parle beaucoup de fragmentation des habitats. Ce qui est vraiment important à prendre en compte, c'est que pour la plupart de ces espèces pollinisatrices, chaque espèce a ses particularités. Mais pour chacune, il y a besoin d'un gîte. Donc en l'occurrence, les abeilles domestiques, c'est les ruches. Chacune a un propre rayon d'action pour aller chercher une ressource alimentaire. On parle régulièrement que les abeilles domestiques ont un rayon d'action allant jusqu'à 3 km. C'est à peu près ces moyennes-là. Pour les espèces sauvages, il y en a certaines qui ont des rayons d'action de 300 mètres. Donc ça veut dire qu'entre l'endroit où elles gîtent et l'endroit où elles doivent trouver une alimentation, cet endroit est très restreint et il faut que cette ressource alimentaire soit intéressante. Donc des espaces qui ont été uniformisés, des paysages uniformisés, diminuent fortement la possibilité à ces espèces-là de pouvoir s'installer. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc l'intérêt pour répondre à ces problèmes-là, bien souvent, c'est du coup d'avoir des milieux qui sont en continuité, donc avoir ce qu'on appelle les corridors, permettre à certaines espèces de trouver des gîtes, par exemple dans des haies, ou tout simplement de la nourriture aussi dans les haies. Donc tout ça, c'est important, et c'est ces éléments-là, entre autres, qui font que la ressource alimentaire est à développer sur le territoire. Après, évidemment, c'est aussi les ressources alimentaires qui sont au bord des cours d'eau. Donc il est important d'avoir des ripisylves fleuries, au moins boisées, sur lesquelles les abeilles puissent trouver des éléments assez tôt dans l'année d'ailleurs. C'est bien les premiers endroits où il y a des espèces qui permettent aux abeilles de trouver de quoi s'alimenter. C'est aussi forcément les champs. Donc les champs fleuris sont très important pour ces espèces-là. Donc c'est vrai que quand les champs sont fanés très tôt, c'est une ressource alimentaire qui disparaît. Ensuite, après, c'est tous les espaces publics que peuvent gérer les collectivités. Et parfois, il y a certains ronds-points, certains jardins publics qui sont fleuris, mais pas avec des espèces favorables à ces insectes-là. C'est pas forcément les plus belles fleurs qui sont les plus plumifères. Et puis aussi tout simplement les particuliers qui, dans le traitement de leur jardin, de leur potager, ont aussi un rôle important à jouer pour la ressource alimentaire.
C'est ce que vous venez de dire, je vais rebondir dessus. C'est vrai que c'est quelque chose qui est déjà ressorti des interviews qu'on a faites avec d'autres personnes, notamment des apiculteurs. C'est vrai qu'on pense directement aux agriculteurs, aux nuciculteurs, avec les traitements ou les monocultures qui éventuellement peuvent jouer sur les pollinisateurs. Mais on oublie bien souvent le citoyen lambda qui, dans son jardin aussi, peut faire des gros dégâts parfois. Et il y a plein de choses à faire. Donc on le voit, hein, l'activité humaine a priori, donc hein, vous ne l'avez pas cité, mais c'est quand même nous hein, qui sommes un peu responsables de ça. Il y a des plans nationaux, on en a parlé en off juste avant, dont le parc s'est emparé et relais sur le territoire, peut-être même des actions réalisées directement par le parc. Qu'est-ce qui est mis en place à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui est en projet ou qu'est-ce qui est en cours en ce moment?
Donc il y a beaucoup de choses qui sont en projet, tout simplement parce que effectivement, si du côté du ministère de l'Agriculture, en charge de l'agriculture, il y avait un plan de développement d'apiculture durable. Du côté du ministère de l'Environnement, il y a actuellement en consultation publique d'ailleurs sur le site internet du ministère, un plan national d'action qui vise à préserver, restaurer les populations d'insectes pollinisateurs. Et ce plan, une fois qu'il a fait un petit peu l'état des lieux, les constats effectivement, avec des forts déclins un peu de partout sur le territoire français, il met en avant un certain nombre d'enjeux et propose un certain nombre d'actions qui va de la connaissance à des actions concrètes sur le terrain pour favoriser le développement de ces espèces. Donc c'est des éléments qui sont forcément intéressants pour nous, puisque c'est là-dedans qu'on va aller puiser un certain nombre d'actions, ce qui ne nous empêche pas derrière de pouvoir expérimenter, inventer une action particulière sur un secteur particulier où la problématique est connue. Mais c'est vrai que nous sommes en train de mettre en place un certain nombre d'actions qui partent tout simplement des actions de connaissance. C'est vraiment important de connaître pour pouvoir derrière agir à des actions concrètes sur notamment la ressource alimentaire. Voilà. On vise aussi forcément à mettre en place des observatoires, notamment avec les apiculteurs, parce qu'effectivement c'est quand même eux les premiers impactés. Et c'est vrai qu'avec leur connaissance, on peut arriver très certainement à cibler un certain nombre de problématiques sur le territoire.
Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de ces actions qui vont se mettre en place ou qui sont mises en place?
Alors sur un exemple, on pourrait parler de la connaissance. Une connaissance qui dit connaissance dit aussi sensibilisation. On veut fortement pousser une science participative qui existe depuis un certain temps, qui s'appelle le SPIPOL, SPIPO2L, science participative des insectes pollinisateurs, tout simplement. Et cette science participative, donc, est bien là pour l'ensemble des habitants, mais aussi l'ensemble des visiteurs qui viennent sur le territoire. L'objectif est tout simple, c'est qu'une personne observe un insecte, la prend en photo, note le lieu, l'heure et le jour, transmet ces éléments-là sur le site internet du SPIPOL. Ces éléments-là sont récupérés par des spécialistes qui vont déterminer l'espèce ou le groupe d'espèces, parce que certaines espèces sont très très difficilement déterminables juste par une simple photo. Mais tous ces éléments, lorsqu'ils sont capitalisés par ces experts, ils arrivent derrière à vraiment quantifier l'état de santé de l'écosystème sur le secteur où les espèces ont été trouvées. Et donc ça, ce sont des vrais marqueurs qui nous permettront d'arriver à terme à se dire si ces espèces sont présentes, c'est que l'écosystème va bien, c'est que les pratiques sont visiblement assez favorables et permettent le développement de ces espèces. Voilà, ce secteur-là, s'il n'y a pas ces espèces indicatrices, c'est typiquement qu'il y a un problème, et là il faut arriver à savoir quel est le problème. Donc ça, c'est important. Pour qu'on arrive à pouvoir obtenir ces résultats, il faut vraiment qu'on recueille de nombreuses données. Donc l'idée, c'est que vraiment les habitants du territoire, principalement, mais on sait aussi que les visiteurs peuvent jouer le jeu, les habitants du territoire puissent renseigner ce site-là. Parce que les experts qui nous accompagnent, notamment celui qui a réalisé l'étude sur sur les insectes pollinisateurs sur le territoire du Vercors, qui est membre du conseil scientifique du parc et quelqu'un qui travaille au Muséum national d'histoire naturelle. Et donc voilà, cet expert-là, s'il a ces éléments-là, va arriver vraiment à peaufiner sur le territoire les problèmes sur un secteur donné qui peuvent être donc du coup complètement différents d'un secteur à un autre.
Et donc ça, c'est vrai qu'on n'en a pas trop entendu parler. Il y a une campagne de communication qui va se faire dessus ?
Il y a une campagne de communication. On devait voir justement avec le muséum pour mener cette campagne-là. On n'a pas pu la mener à ce printemps-là. On voulait se faire accompagner par un étudiant du muséum pour cette démarche-là qui derrière avait un certain nombre d'actions que je vais pas commencer à décliner ici. Mais l'objectif, c'est effectivement de petit à petit de développer cet outil-là, parce que voilà, c'est un outil collaboratif qui est vraiment capital pour la connaissance et qui est surtout du coup un vrai outil de sensibilisation. Mmh. Parce que cet expert-là me raconter une anecdote, c'est qu'il y a des observateurs lambda qui ne connaissaient absolument rien d'insectes, qui à force de donner des données, de transmettre des données et de jouer le jeu, si vous voulez, le site, c'est, on peut se contenter de donner nos observations, mais on peut aussi s'amuser avec les clés de détermination et essayer de trouver l'espèce. Ils me racontaient donc il y a certaines personnes qui ne connaissaient absolument rien à ces insectes, qui sont devenus très pertinents et qui pourraient très bien jouer le rôle d'experts, parfois mieux que certains en place.
Oui, puis même ne serait-ce qu'observer, c'est quelque chose en plus qu'on peut faire très facilement, même en famille, avec les enfants, enfin tout l'intérêt tout est là, et ensuite de partager. On peut peut-être redonner le nom du site éventuellement pour inviter nos auditeurs à...
C'est le Spipol, S-P-I-P-O-2-L.
Et ça d'ailleurs, il me semble, là, c'est vraiment spécifique aux insectes pollinisateurs, mais ça existe pour beaucoup d'autres espèces aussi, il me semble. Oui, je l'ai déjà vu pour les amphibiens. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses dont on pourrait parler, d'autres actions, d'autres...
Non, mais peut-être éventuellement, pas forcément aller sur d'actions concrètes, même si on travaille beaucoup au parc sur des actions qui visent à favoriser la ressource alimentaire, donc tant sur le bord du cours d'eau, comme j'expliquais tout à l'heure, parce que c'est vrai que dans le cadre du contrat de rivière Vercors-Opur que le parc porte, sur la Bourne et sur le Furon, on essaye de favoriser la ripisylve sur le bord du cours d'eau, donc une ressource alimentaire importante pour ces insectes-là. Et puis, en plus, on est là sur un vrai corridor, donc c'est très très intéressant. On a beaucoup d'actions avec le monde agricole autour de ces problématiques de prairies fleuries, donc on essaye de travailler dans ce sens-là. Mais ce qui est important, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est peut-être aussi de mettre en place des outils d'observatoire, un observatoire de veille, notamment auprès des apiculteurs qui, en l'occurrence ici dans le Royan, ont connu de très grosses pertes cette année. Et c'est vrai, comme je disais, ce sont forcément des personnes qui savent quels sont les problèmes. Et c'est vrai, quand on est confronté à des problèmes comme il y a pu y avoir dans le Royan, il est évident que, surtout en période hivernale, avec des mortalités qui si importantes que ça, forcément, on n'est pas sur des problèmes-là de ressources alimentaires, on est sur d'autres problèmes, donc des problèmes notamment certainement de produits phytosanitaires quelconques, je ne sais pas quels ont été les résultats des analyses qui ont été réalisées, mais on est sur des problèmes profonds. Et il est important que du coup, d'une manière spécifique, on puisse avec eux mettre en place un observatoire à partir de leur pratique, concrètement, quand est-ce qu'ils mettent des ruches à tel endroit, comment ils en mettent, est-ce qu'il y a de la production de miel, est-ce qu'il y a de la mortalité, et arriver à connaître ces éléments-là pour arriver à cibler certaines problématiques sur certains secteurs du territoire.
Donc c'est vrai que ce qui ressort, c'est que voilà, avoir une bonne connaissance de ces insectes, de leurs conditions, ça permet de les maintenir, de les aider, etc. On a parlé d'une étude, un document qui est là, qui est sur la table, que tout le monde peut se procurer d'ailleurs en allant sur le site du ministère. On peut récupérer ce document si ça intéresse pour... Alors, c'est des informations... J'ai pas lu le contenu de cette étude, mais éventuellement, on peut peut-être inviter les auditeurs qui veulent se renseigner plus largement sur le sujet à aller voir cette étude.
Tout à fait. Donc, il est bien en consultation publique. Donc, ça, justement, c'est important que beaucoup de personnes puissent prendre le temps de le regarder et apporter des remarques. Le ministère attend ces remarques-là. Donc ça, c'est bien le plan national d'action sur les pollinisateurs, qui a un nom particulier. Il l'appelle France Terre de Pollinisateurs. Ce document, en fait, vous pouvez le trouver sur le site internet. Vous pouvez le trouver, le plan national d'action, dans sa globalité. Donc là, je vous souhaite un bon courage parce que ça doit être quelque chose comme 200 pages à lire. Mais il y a quand même une version synthèse qui résume un petit peu ce plan national qui rappelle donc les causes de ce déclin. Qui met en avant les enjeux, qui liste derrière du coup les objectifs de ce plan d'action et qui cible une vingtaine d'actions à mettre en œuvre. Mais encore une fois, ce plan national d'action est réalisé à l'échelle nationale, donc qui répond à différents enjeux, parce que c'est vrai qu'on a à différentes causes qui justifient ce déclin. Mais encore une fois, sur les territoires, ces causes peuvent évoluer et parfois on peut mettre le doigt facilement sur des problématiques de produits phytosanitaires sur d'autres secteurs. C'est pas forcément le problème numéro un, ça va être la ressource alimentaire. Sur d'autres secteurs, ça peut être aussi tout simplement lié au changement climatique. Donc il y a un tout nombre d'éléments, mais en tout cas ce plan national d'action vise une vingtaine d'actions qui méritent derrière d'être déclinées sur les territoires pour arriver à inverser la tendance et inverser la tendance pour les insectes pollinisateurs sauvages, mais aussi inverser la tendance pour les insectes pollinisateurs domestiques et notamment pour l'apiculture, parce que c'est vrai que sur les territoires comme les nôtres il y a des hommes, des femmes qui travaillent, qui perdent du jour au lendemain 100% de leur rucher. Donc c'est évidemment difficile. On est sur les territoires où forcément des ressources comme celle-là, comme peut-être le miel, c'est des ressources que l'on souhaite valoriser, parce que c'est les richesses de nos territoires. Et arriver à faire le constat que les producteurs ont de plus en plus de mal à produire du miel sur les territoires, c'est un vrai problème. Donc il faut arriver à remédier à tous ces problèmes et inverser cette tendance qu'on constate depuis un certain temps.
Donc en tout cas, on le voit, je vais dire une formulation un peu familière, mais on le voit, le parc est sur le coup, vous suivez le dossier. Benoît Béton, merci de nous avoir présenté tous ces éléments. On le rappelle, vous êtes responsable du pôle gestion des milieux, des espèces et des ressources au sein du parc naturel régional du Vercors. Merci beaucoup.
Merci à vous.